parler de l'amour, l'amour et vérité. Et dimanche prochain, je vais recommencer avec la Genèse pour faire quelques messages, au moins un, peut-être quelques messages sur Jacob et par la suite Joseph. Et on aura terminé donc le livre de la Genèse. Donc, comme introduction aujourd'hui, je vais simplement lire quelques versets concernant l'amour. Et donc, vous pouvez chercher si vous voulez, mais je ne vais pas attendre que vous cherchiez les versets. Mais le point de référence, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, en parlant bien sûr de Jésus qui a été crucifié et qui a ressuscité. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu est amour. Et il n'a pas gardé cet amour pour lui-même, il a manifesté. Il a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 13, je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, 34 et 35, il parle à ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, ceux qui sont des chrétiens, des disciples de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Donc, il se donne comme le modèle. Dieu est amour. Et Dieu nous a aimés à tel point. Il a tant aimé le monde. Et il nous dit, comme je vous ai aimé, eh bien, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Matthieu chapitre 5, versets 45 et 44 et 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, quand nous disons qu'on est enfant de Dieu, que nous sommes des fils et des filles de Dieu, eh bien, Dieu veut que nous manifestons l'amour afin d'être comme votre Père céleste. Donc, il a dit d'aimez-vous les uns les autres en parlant aux croyants, mais dans ce verset, il va bien au-delà de l'idée d'aimer les frères et sœurs en Christ. Et il va jusqu'à aimer nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Et puis, lié à cette idée, parce que Dieu est amour, mais Dieu est lumière, Dieu est vérité, Dieu est justice, Dieu est saint. OK? Eh bien, dans Jean 4, 25, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, adorent, en esprit et en vérité. On ne peut pas séparer l'amour et la vérité. On verra ça tout à l'heure. Romains chapitre 13, on a vu ça dans les mardis soirs, mais j'ai pris un seul texte de cet chapitre, trois chapitres. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Maintenant, c'est chapitre 14, Romains chapitre 14, versets 17 à 19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et puis, un dernier verset comme introduction. 1 Pierre chapitre 4 et verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car la charité, l'amour, couvre une multitude de péchés. Et on a chacun et chacune toute une multitude toute seule, n'est-ce pas? Donc, Dieu veut qu'on aime les uns et les autres. Donc, nous allons regarder dans 1 Corinthiens chapitre 13 pour prendre ce texte. Donc, vraiment, le sujet de l'amour est trop vaste. Je ne peux pas faire justice à ce thème. Donc, on va simplement essayer de faire justice à ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Sautez au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, ça veut dire demeurent éternellement. La foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. OK, donc vous vous souvenez, j'ai insisté sur ça les mardis soirs. Donc, tous ces chiffres, les chapitres et les versets sont les rajouts des éditeurs pour l'impression du livre et ne sont pas dans les originaux. Donc, le texte continue et c'est dommage, ils ont coupé entre chapitre 13 et chapitre 14 parce que la conclusion de tout ce qu'il avait dit, c'était de rechercher l'amour. Et puis, ils ont coupé et mis ça dans le chapitre suivant. Hein? C'est dommage. OK, donc on va revenir au verset 4 et je vais élaborer chaque mot pour vous donner quelques idées et comme je peux, je vous donnerai aussi quelques exemples. Mais j'ai imprimé sur le texte de Louis II, 1910. Donc, on n'a pas le mot l'amour, mais on a le mot qui est plus facile pour les anglophones à prononcer, la charité. Donc, ils avaient choisi le mot la charité dans les temps anciens parce que c'est la mise en pratique de l'amour. Okay? L'amour, c'est un principe et la charité, c'est la mise en pratique. C'est pour cela que Louis II avait choisi la charité et patient. Donc, ce mot patient, c'est un mot qui est composé de deux mots qui veut dire lente et colère. Et ça vise aussi donc l'idée de distance. OK? Donc, on a cette idée d'être patient, de garder son sang froid, d'avoir un regard fixé sur l'objectif, lointain. OK? Donc, on a un soupçon ici de l'idée de fidélité. On voit ça surtout dans les mariages, chez les couples. Hein? Fidélité en dépit de nos différences et luttes. OK? Donc, cette idée de patience, donc l'amour, la charité et patience. Ce n'est pas tout de suite et tout maintenant. C'est la distance que vise l'amour. La charité est pleine de bonté. Donc c'est un problème pour moi parce que puisqu'il y a l'amour masculin et la charité féminine, eh bien, si je me trompe dans la lecture, je vais mélanger l'amour et bonté au lieu de l'amour et bon. Vous voyez? Donc je vais essayer de garder Louis II. La charité est pleine de bonté. Ce mot bonté, c'est le mot serviable. Bon, c'est bien sûr, c'est le mot bonté, mais c'est de donner l'idée de serviable, rendre service, d'être bon, être aimable. Alors, on a déjà lu Dieu est bon. Ça, c'est une des choses que je voulais dire tout à l'heure. Donc, quand tu as lu le texte tout à l'heure, eh bien, Dieu est bon. Il est bon, on nous dit dans l'Ancien Testament, trois fois, on dit que Dieu est bon dans l'Ancien Testament. Une fois, il est bon. Une fois, il est bon parce qu'il est miséricordieux. Et il est bon parce qu'il s'est révélé. OK? Et puis ça se répète un petit peu dans l'Ancien Testament. Dieu est bon. Sa bonté se manifeste par, donc, la miséricorde, la révélation, aussi la grâce qui est dans l'Évangile et les fruits de l'Esprit. La charité est, il dit, pleine de bonté. Donc notre amour, ça, soit maigre, quoi. Un peu plus de poids sur notre amour, OK? Qu'on le nourrit bien, notre amour. La charité n'est point envieuse. Et là, c'est le mot jalouse. Ce mot-là a plusieurs significations selon le contexte. Donc ici, c'est le contexte négatif. La charité n'est point envieuse. Donc, pas jaloux, ne convoite pas, ne regarde pas les autres pour les critiquer, pour être envieux de ce qu'ils ont et que je n'ai pas. OK? Si on aime les autres, on ne regarde pas ce qu'ils ont. Ça ne nous regarde pas. Mais ce mot a d'autres significations dans d'autres contextes. Le verset que je n'ai pas terminé, chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, où il dit « Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc, c'est le mot, le même mot dans le grec, c'est ce mot « jalousé ». OK? Mais dans ce verset, chapitre 14, verset 2, ça signifie plutôt discerner ou rechercher la qualité. Et donc, vous le savez bien, mais le mot « don » n'est pas dans le grec, c'est ce qui est spirituel, les phénomènes spirituels. Mais comme un bijoutier, il va être jaloux en ce qui concerne les bijoux. Il va vendre une bague peut-être, et il ne va pas prendre n'importe quel... diamant, on va dire. Il va sélectionner, il va regarder quand le marchand de diamants passe et il va sélectionner les meilleurs. Hein? Vous voulez aller chez le bijoutier qui achète tout le pire ou celui qui achète les meilleurs? Vous voyez? Donc, c'est ce mot-là. Il doit jalouser, le bijoutier va jalouser pour sélectionner les meilleures qualités du bijou. Et c'est ce mot-là, jalouser sur la spiritualité. Il ne faut pas accepter n'importe quelle chose. Il y a plein de spiritualité qui n'est pas de Dieu. On ne le veut pas. Et c'est aussi le mot qui veut dire être zélé. Donc le mot en grec c'est zéléo, comme zélé. Notre mot en français vient du grec là, OK? D'être zélé. De vraiment avoir une envie de cette chose-là. Et donc, il y a, selon le contexte, les utilisations différentes de ce mot. OK? La charité n'est point envieuse. Elle n'est pas jalouse. OK? C'est ça, ce mot-là. La charité ne se vante point. Donc, c'est l'idée de fanfaronner. C'est un peu comme les pharisiennes dans les évangiles qui veulent prier dans les lieux publics pour que les gens regardent. Ah, voilà, vraiment un homme spirituel. Écoutez ses prières. OK? C'est ça, cette idée-là. Au contraste, donc, on devrait être plutôt humble. Hein? Donc, on est, quand on aime, on va mettre en avant l'humilité. Ça peut se manifester. Certaines personnes qui veulent se vanter vont être bruyantes, faire du bruit pour que les gens regardent. OK? Ou peut-être être choquant dans le vêtement, que les gens regardent. Donc, les vêtements excessifs. Hein? Excessif dans le sens de trop de couleurs, trop de beauté ou trop de mocheté, hein, dans les vêtements. Dans les deux sens, on cherche le regard des autres. Et quand on aime, on ne se vante pas, on ne cherche pas que les gens focalisent sur moi. Ça peut être aussi les vêtements flamboyants, immodestes, etc. Qu'on attire l'attention sur moi-même. L'amour, la charité ne s'enfle point d'orgueil, n'est pas gonflé, n'est pas prétentieux. À la fin, ça peut devenir même l'idée d'insolence ou arrogance. Okay? Donc, le péché a eu son origine en Lucifer qui s'est gonflé de lui-même par le ministère que Dieu lui avait donné. Et donc, c'est cette chose-là, cet orgueil. Tout pour moi, et moi en premier, et moi seul. Et ça, ce n'est pas amour. La charité ne fait rien de malhonnête. Là, c'est un mot un peu bien plus complexe que le mot malhonnête, d'accord? C'est l'idée mal agir, ou manquer aux convenances. Ne manque pas aux convenances. Ne fait rien de laide. Ne fait rien de honteux ou d'inconvenable. OK? Donc, le texte 1 Corinthiens chapitre 13, là où se trouvent donc, les dames qui ne portaient pas leur voile. Donc, les dames chrétiennes, pour manifester leur liberté en Christ, ont choqué toute la société de l'époque parce qu'elles se promenaient dans les rues et à l'église sans leur voile. C'était choquant parce qu'elles se présentaient comme des prostituées. C'était ça le message que les gens dehors et les gens dedans recevaient de leur agissement. Okay? Vous comprenez? Elle, la charité, ne fait rien de malhonnête. C'est ça, cette idée de malhonnête ici. Tout ce qui a un regard avec le mal, ce n'est pas simplement le mensonge, mais c'est tout ce qui a un rapport avec le mal, avec l'image qu'on projette de soi-même qui n'est pas honnête, etc. La charité ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas ses propres avantages et n'est pas égoïste. Donc, si on parle de l'évolution, dans l'évolutionnisme, dans la théorie, on a l'idée de la survie du plus fort. Okay? Donc, le plus fort cherche son intérêt parce qu'il doit survivre. Mais dans le christianisme, théisme, c'est l'opposé. Okay? Donc, au contraire de la survie des plus fortes, on va soigner les malades. Parce que dans la théorie que les faibles doivent mourir, ben, il faut qu'on ne les aide pas. Les malades doivent mourir. Il ne faut pas protéger les faibles. Pourtant, Dieu, il veut qu'on protège les faibles. Okay? Simplement, c'est une idée-là. Que l'idée que la charité ne cherche point son intérêt, c'est que dans l'athéisme pur, il n'y a pas d'amour. Il y a la survie du plus fort. C'est égoïste à 100%. Ni foi, ni roi, ni loi. Tout pour moi. Elle ne s'irrite point. Donc c'est un verbe réflexif OK? Ça veut dire, elle ne devient pas irritée en elle-même. OK? Donc, restez calme. Elle reste calme. L'amour, la charité, la personne reste calme. La personne aura contrôle de soi, qui est bien sûr un des fruits de l'esprit. La charité ne soupçonne point le mal. Donc, dans cette idée-là, donc les traducteurs, plusieurs traducteurs ont utilisé le mot soupçon. OK, donc, étant que je ne suis pas de la grande qualité de traducteur de professionnel, donc on va comprendre, soupçonner le mal, ça veut dire que je vois le mal dans l'autre. Je pense que il a dit ça, c'est parce que... Et là, ce n'est pas amour. OK? Qu'est-ce qu'on doit faire si on pense que quelqu'un nous a offensés? Ah ben, il faut aller le voir. Mais tu as dit ça? Pourquoi? Mais vous pouvez le dire plus gentiment, mais il faut que vous vous renseigniez, OK? Pour régler la chose. Donc, ce mot... soupçon point de mal, ça veut dire compte le mal comme ah, ça fait 11 fois que tu m'as fait ça. Compte, à chaque fois je compte ça et je garde ça en mémoire. Et donc j'ai quoi? J'ai la rancune contre l'autre. L'amour, donc, n'est pas rancunier. L'amour ou la charité n'entretiennent pas de rancune, elle n'éprouve pas, de rancune. Donc, l'amour n'accuse pas comme première réaction. Tu as fait ça! C'est pas la première réaction. L'amour ne fait pas ça. Donc, on va chercher une explication raisonnable et espérons que il y avait un malentendu. Et s'il n'y avait pas de malentendu, eh bien, il y a d'autres choses à faire pour régler la chose, pour qu'on peut aimer l'un et l'autre. OK? Au verset 6, la charité ne se réjouit point de l'injustice. Donc, cette idée, déjà, l'injustice, c'est le mal ou une action mauvaise ou le péché. OK? Donc, la charité ne se réjouit point du mal, des mauvaises actions, du péché. Donc, on dit ça un peu d'une optique. Je suis ici et le mal est là. Je l'observe et ça ne me réjouit pas de voir ça par là. Ou je ne le pratique pas moi-même. Je ne veux pas que ça soit à moi. Mais c'est comme une séparation entre moi et le mal. Quand je aime, je ne veux pas le mal, le péché ou des actions mauvaises. Et puis ce mot « réjouir », se réjouir, c'est l'idée d'être heureux ou de prendre plaisir. Donc la charité n'est pas heureuse quant à l'injustice. Ou la charité ne prend pas plaisir dans l'injustice ou dans les actes de péché ou dans les actes d'injustice. La charité n'accepte pas, n'accueille pas chez soi le mal. OK? Je donne un exemple. La charité ne réjouit pas, donc je vais utiliser le mot le péché, OK, au lieu d'injustice, ne réjouit point du péché. Donc, c'est contre la pornographie. Si vous allez sur Internet et vous regardez la pornographie, c'est que ça vous fait plaisir. Et donc, c'est pas l'amour. Parce que vous faites plaisir à voir le mal, le péché. OK? Donc, si on est chrétien et on pratique comme il faut être enfant de Dieu, Dieu est amour, je me sépare du mal. Donc, ça, c'est vrai pour toute immoralité ou tout abus. Vous savez, il y a plein de choses dans le monde. Et nous, en tant que chrétiens, on ne devrait pas se réjouir du mal ici, du mal là. Alors, c'est un peu tordu nos optiques, on va dire, culturelles. Mais on voit le monde à travers les lunettes de ceci et cela, mais vraiment, l'autre jour, ils avaient dit au moins 1 million de dames en esclavage sexuel dans le monde aujourd'hui. Esclavage. Il n'y a plus d'esclavage. Si. Ah. OK, donc on ne peut pas se réjouir du mal dans ce monde. Hein? Plutôt, donc, quand il y avait quelqu'un qui avait commis l'inceste chez les Corinthiens, Paul a dit, plutôt, l'Église devait être dans l'affliction ou dans le deuil, être dans la tristesse et non pas se réjouir de cet péché parmi eux. OK? Donc, c'est ça. On doit avoir une attitude vis-à-vis du péché. Et c'est plus dans cette idée de tristesse et deuil et non pas de prendre plaisir ou de vouloir ou d'être heureux vis-à-vis du mal. La charité ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et ce n'est pas le même mot. Se réjouir et se réjouir ne sont pas le même mot, c'est presque le même mot. OK? Donc, c'est en grec, c'est le mot kairo, et enfin, kairos et sun kairos. OK? Donc, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que moi, je me sépare du mal, parce que je ne suis pas avec ça en tant qu'enfant de Dieu. Mais je suis avec quoi? Je suis avec la vérité. C'est pour ça que j'ai lu à l'introduction des versets, Dieu est amour, mais Dieu est vérité. Et Dieu ne peut pas se couper en deux et dire, bon, j'ai fait là par amour et je ne fais pas la vérité. Non, Dieu est toujours vrai. Il ne peut pas changer ça. Donc, l'amour et la vérité vont de pair. Et c'est pour cela, ici, qu'on a ce mot grec qui incorpore le principe de l'union entre l'amour et la vérité. Je voulais lire 1 Pierre 1, 22. Je n'avais pas. 1 Pierre 1 et 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Pour arriver à avoir un véritable amour fraternel, il faut marcher dans la vérité. C'est ça que le verset dit. OK? Et donc, je voulais dire aussi, donc, quand on parle avec les autres, comme le premier mot, on avait le soupçon de fidélité, eh bien ici aussi, on a un soupçon d'un genre de fidélité, qu'on va tenir parole. Si on aime les autres, on va dire et on va faire. On ne va pas se donner une réputation de toujours ne pas tenir parole, mais de toujours tenir parole, que notre oui soit oui et que notre non soit non. C'est ça que la parole dit. Les gens devraient pouvoir compter sur nous. Quand on dit quelque chose, on va le faire. Bon, des fois, ça ne marche pas. Mais on va faire un effort quand même. Si je l'ai dit, je vais le faire. Même contre ma propre intérêt, parce que j'ai promis. Hein? Et donc, ça revient à la fidélité. Ma parole. Je suis fidèle à ma parole. Vous êtes fidèle à votre parole. C'est important. Ça montre que vous aimez les autres. Vous mettez leur intérêt avant votre intérêt. Et puis, on a cette partie-là. La charité excuse tout. La charité croit tout. La charité espère tout. La charité supporte tout. Ah, ce mot « tout », c'est grand. Alors, le premier mot, elle excuse tout, est aussi un mot traduit supporter, mais ce n'est pas le même mot qu'à la fin. Au début, quand on dit excuse tout, ça veut dire plutôt qu'on protège ou préserve, même résister à la pression. OK? Donc, l'idée, c'est qu'on couvre les choses pour les protéger ou préserver. L'amour protège. L'amour préserve. L'amour couvre et résiste à la pression. Après, elle croit tout. Donc l'idée, c'est qu'elle maintient la confiance. Mais dans le contexte du verset 1, elle est patiente. Elle sait bien que telle personne n'arrive pas à dire la vérité. On ne peut pas excuser la vérité, le mensonge, quand on sait que c'est le mensonge. Mais on va espérer que ce n'était pas un autre mensonge. Et pourtant, c'était encore un mensonge. Mais on va garder confiance qu'un jour, cette personne sera libérée de leur mensonge pour être une personne qui dit vrai. Okay? Vous voyez la façon, notre attitude envers les autres. En toutes circonstances, on va garder la foi et la confiance. Aussi, elle espère tout. Donc ça, c'est le même genre d'idée. On va espérer que cette personne va être libérée de leur mensonge. Mais quand le mensonge devient évident, il faut critiquer la personne. Il faut le rappeler de leur péché pour qu'ils soient confrontés et qu'ils confessent et qu'ils changent. Hein? Le changement, donc, c'est la repentance, dans le sens de la sanctification. Et la charité supporte tout. Donc, ça c'est dans le sens encore de la patience, elle endure, mais ce mot supporter, c'est un mot qui est plutôt la question de stabilité. L'amour est stable. L'amour est inébranlable. Elle reste sur place. Elle se tient ferme. C'est comme la maison qui était bâtie sur le roc. Mais pas simplement bâtie sur le roc, mais au milieu de la tempête. Et l'autre maison est partie parce que c'était sur le sable, mais cette maison sur le roc est restée ferme. C'est ça ce mot-là, supporter, supporte tout. Okay? L'amour est stable. Au verset 8, la charité ne périt jamais. Elle ne va pas disparaître. Elle est pour toujours. L'amour n'est jamais en panne. Comme une voiture. Toujours en panne, n'est-ce pas? Elle est sans corruption. Ce sont les significations de ce mot-là. Elle ne périt. Périr, là, c'est ces idées de ne jamais disparaître, de ne jamais tomber en panne, d'être sans corruption. Maintenant donc, ces trois choses demeurent éternellement. La foi, donc la foi, c'est qu'on a eu confiance en Jésus-Christ. Et quand on a eu confiance en Jésus-Christ, on avait donc reçu l'espoir d'aller pour toujours au paradis. Donc ce qu'on attend de Dieu, c'est notre espoir, notre espérance. Et la charité, c'est ce que nous faisons parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Ce sont des œuvres que Dieu a faites à travers nous. L'amour de Dieu manifesté à travers nous. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. Donc, ça va être nos couronnes, les choses que Dieu va évaluer et puis qu'on reste avec nous pendant l'éternité. C'est les choses qu'on a faites par l'amour, enraciné dans Dieu, dans son amour et sa vérité. Et donc, il dit, à cause de ça, parce que c'est le plus important de toutes ces choses, qui c'est le plus important de tout ce qui va rester pour l'éternité, eh bien, recherchez la charité. Et là, c'est un mot qui peut être utilisé dans un sens affirmation ou un sens négatif. Donc, au négatif, ça vous donne un peu l'idée, d'accord? Au négatif, ça veut dire persécuter. Donc, si c'était dans une phrase négative, il aurait dit « Cherchez à persécuter les criminels. » Mais ce n'est pas dans un sens négatif, c'est positif. Et donc, en positif, c'est chasser, poursuivre, rechercher. Donc, rechercher comme un grand prix, comme le père de grand prix ou comme le trésor qui était caché dans une terre. Et on va tout vendre pour acheter cette terre, pour avoir le trésor. OK? Ça, c'est ces idées-là. Donc, je termine avec une phrase, et après, je vais donner une conclusion, et puis, on va partager le repas du Seigneur. Donc, 1 Jean 4, quelques versets. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Amen. Donc aujourd'hui, le message était une leçon en vocabulaire. Donc, c'est pour ça que je vais faire une petite conclusion, un résumé. Okay? Dieu est amour, Dieu est vérité. Et vous, nous, on est enfants de Dieu. Nous devons refléter les vertus de Dieu. Au négatif, dans l'amour, il n'y a ni ténèbres, ni crainte, ni injustice, ni égoïsme, ni méchanceté. Et si je peux le dire, c'est un peu incorrect de dire comme ça, mais à l'affirmatif, l'amour et la vérité vont ensemble. L'amour ne fait point de mal. Donc, c'est un peu négatif comme phrase, mais c'est affirmation. L'amour ne fait point de mal. Et l'amour ne s'isole, mais vient en aide. Si on était égoïste, on s'isole. On dit, moi et que moi, je vais faire tout pour que moi je réussisse. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour met l'autre en avant, donc vient en aide. Et donc, l'idée qu'on a eue dans Romains chapitre 13 et 14, c'est que l'amour construit. L'amour ne détruit pas. C'est un principe de construction. Fait les choses pour édifier les uns et les autres.